Bienvenue sur l'antenne de Radio RKS, sur le 97FM ou RadioRKS.fr. C'est un nouveau rendez-vous des grandes interviews RKS. Aujourd'hui, amis auditeurs, amis auditrices, on espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, la rédaction de RKS s'est rendue dans les locaux de l'Apagie, qui a la gentillesse de nous recevoir pour une petite heure d'interview. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Donc l'Apagie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association de protection des animaux Grenoble et Isère, qui se trouve sur la commune du Versoux. Hein. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et vous avez peut-être déjà entendu le petit sujet qu'avait fait Radio RKS sur l'inauguration des nouveaux locaux le 1er avril dernier. Et aujourd'hui, on va faire une interview un peu plus complète qui va vous présenter, amis auditeurs, amis auditrices, l'ensemble des activités de l'Apagie. Et puis, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez pouvoir vous instruire. Vous savez qu'on aime bien faire ça sur RKS. Et pour ce faire, du coup, comme je disais, on est dans les locaux de l'Apagie au Versoux. Et autour de la table avec nous aujourd'hui, nous avons Laura Belin. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, on a Anna Gottsalk.
Bonjour.
Bonjour, et Philippe Verrière.
Bonjour.
Comment allez-vous en ce bel après-midi ?
Très bien, surtout qu'il y a du soleil, donc pas de problème.
Tout à fait. Donc vous avez la gentillesse de nous recevoir dans vos locaux aujourd'hui pour qu'on parle de l'Apagie et qu'on présente un petit peu l'Apagie à nos auditeurs et nos auditrices. Mais tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter pour nos auditeurs et auditrices. Odeur aux dames, monsieur le président, ça vous convient ? Allez, allons-y. Laura, du coup, qui êtes-vous ?
Alors, moi je suis bénévole depuis peu de temps. En fait, c'est dans le cadre de mes études. J'ai repris mes études en septembre.
D'accord.
Et du coup, pour un projet, j'ai décidé de contacter le refuge pour leur proposer une campagne de financement participatif.
D'accord.
Donc, qu'on a fait il y a quelques mois. Et donc voilà, c'est dans le cadre de ce projet que j'ai décidé de me lancer de collaborer avec une association qui avait les mêmes valeurs que moi et qui défendait des idées dans lesquelles je crois.
Très bien.
Ça comme ça.
Parfait.
Et depuis, du coup, je m'occupe du compte Instagram du refuge.
D'accord. Du coup, elle n'est jamais partie depuis.
Voilà, je suis restée.
Très bien. Merci beaucoup. Des valeurs sur lesquelles on reviendra tout à l'heure sans aucun doute. Anna, je vous laisse vous présenter pour nos auditeurs.
Eh bien, moi, je suis aussi récemment intégrée à l'Apagie depuis fin 2020. Ça fait pourtant 4 ans maintenant que j'exerce en protection animale pour d'autres associations, avec cette particularité de proposer un accompagnement pour les chiens dont l'adoption est rendue plus difficile par des parcours de vie compliqués, souvent issus de maltraitance. Donc j'ai proposé, parce que voilà, ça fait quelques années que je travaille de très près avec de nombreux éducateurs canins. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de chiens que j'ai déjà amenés à l'adoption.
D'accord.
Donc j'ai proposé ce service à l'Apagie, qui m'a accueilli à bras ouverts pour accompagner ces chiens en situation un peu plus compliquée. Et il paraissait juste évident que le pôle prenne le nom d'Hydra, qui est là depuis maintenant 5 ans.
D'accord.
Après un parcours de vie particulièrement difficile, il faut savoir qu'Hydra est arrivé ici complètement amaigri. Mm-hmm. Et les dents limées. Hydra n'a plus de dents.
D'accord.
Donc on peut imaginer un peu ce qui lui est arrivé.
D'accord.
Et c'est aujourd'hui, ça fait partie de ces chiens qu'on ne peut pas laisser partir comme ça à l'adoption sans ce suivi, sans cet accompagnement particulier.
D'accord.
Et je suis présente tout le long du processus de rééducation pour Hydra, mais aussi de rencontres vers des adoptants, prévisite d'adoption, post-adoption, travail autour des chiens, de sociabilisation, enfin tout le travail pour ces chiens qui en ont vraiment besoin.
D'accord.
Et qui subissent la bêtise humaine encore plus que les autres.
On y reviendra plus avant tout à l'heure, parce que je pense qu'il doit y avoir du travail en la matière. Bien malheureusement,
Malheureusement, oui.
On y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Anna. Et nous avons Monsieur le Président, donc Philippe. Bonjour, Philippe.
Bonjour. Alors, moi, ça va faire 6 ans que je suis président. Et on va dire 6 ans et 6 mois que je suis bénévole à l'Apagie.
D'accord, très bien. Ça fait une paire d'années.
Voilà, je suis tombé dedans comme ça pour aller promener les chiens et puis...
De fil en aiguille.
Je venais une fois une heure toutes les semaines et maintenant je viens toutes les semaines pendant tout le temps.
Très bien.
Il y a beaucoup de boulot, il faut faire tourner... on a 53 box, donc on a... peut-être 53 chiens, une quarantaine de chats, et tout ça, ça se relaye tout le temps, il y a tout le temps des animaux abandonnés, difficiles, pas difficiles, qu'il faut leur trouver un nouveau maître, de qualité, si possible. Pas un bâtard, comme on dit.
Et voilà. Oui, les bâtards ne sont pas là où on ne le pense, dans un refuge animalier.
Avec ce qu'on voit, oui, c'est clair.
C'est sûr.
Je pense qu'on y reviendra également plus avant. Avant de présenter, bah déjà, merci à vous trois pour cette petite présentation. On va quand même préciser, la PAGI est donc une association. C'est une association loi 1901.
Elle a été créée en 1976.
D'accord.
De la séparation entre la fourrière et le refuge.
D'accord, ok.
L'époque, c'était le Sciepargh qui gérait. Ils ont souhaité à ce que. Alors, il faut savoir que toutes les communes doivent avoir une fourrière.
D'accord.
Donc la métropole a fait le choix d'en avoir une pour les 49 communes de la métropole.
D'accord.
Donc c'est la fourrière du Verso. Après, ça n'empêche pas aux autres communes du Grésivaudan de se raccrocher à cette fourrière. En payant une taxe pour rentrer et puis pour avoir les services de la fourrière et qui récupère tous les animaux, et je dis bien tous les animaux qui se trouvent sur la voie publique.
D'accord.
Que ce soit un canard, un chien, un chat, une perruche.
Ouais, il n'y a pas de distinction.
Pas de distinction. Mmh. Des bois, des.
D'accord. Et du coup, il y a une seule fourrière pour 49 communes.
Il y a une seule fourrière pour 49 communes, oui.
Alors, je suis peut-être très naïf, mais ça me paraît peu, non.
Non, ça va, parce que, d'abord, il y a une politique du chien errant. Parce que le chat, lui, a le droit à l'errance, il a le droit de se balader.
D'accord.
Mais le chien, non. Mm-hmm. Pour des raisons de dangerosité, hein, tout simplement.
Oui, bien sûr.
Et donc, à partir de ce moment-là, il y a tous les chiens qui sont dans les rues. Il y a eu un travail de fait bien avant nous. Et qui fait que maintenant, on commence à porter ses fruits.
D'accord.
De ce travail.
Et d'accord.
C'est pour ça qu'une seule fourrière pour 49 communes, ça va.
C'est suffisant, d'accord. Non, mais voilà, je posais la question en toute naïveté.
Ça, parce peut, que... ça peut le faire. Bon, après, comme je vous dis, on a des cas difficiles, parce qu'il nous arrive de récupérer un bouc.
Ah oui, ça vous arrive à la PAGI de... Il n'y a pas que des chiens et des chats. Quoi.
Voilà, alors après, ces animaux-là ne rentrent pas sur la PAGI, mais par contre, on s'en occupe avec la fourrière pour les placer à d'autres endroits. Mais,
d'accord, ok.
En partant toujours du principe que ces animaux doivent sortir en marchant.
Voilà. Bien sûr, bien sûr.
Voilà, vous avez compris.
On a compris, je pense que nos auditeurs et nos auditrices également. Quelle a été l'évolution de la PAGI au fil des années? Alors je m'adresse encore au président peut-être, parce que c'est lui qui est là depuis le plus longtemps.
Alors là, on travaille beaucoup avec les municipalités,
ouais,
donc on travaille avec surtout bien sûr la métropole. On gère à peu près, on va dire, 300 adoptions par an de chiens.
Juste de chiens.
De chiens.
D'accord.
Et à peu près 400 chats. Sachant que il y a la période de chatons qui va qui propulse
oui, bien sûr.
En 3 mois, on fait à peu près 200 chatons, quoi.
Ah oui, quand même.
Ouais. Bien sûr. Ça reste pas, parce que les petits chatons, c'est demandé.
Oui, là je vais vous confier une histoire personnelle, c'est que mon gros matou qui était à ma maison, il vient d'ici. Je l'ai adopté en juillet 2016.
Ouais,
et c'était une petite matou qui avait été accueillie au tout début de l'été par la PAGI et qui était enceinte d'ailleurs, qui a mis bas à la PAGI de 2 ou 3 petits chatons. Et on était venus nous pour adopter un chaton à la base, comme tout le monde.
Ça arrive aussi.
Et la soigneuse qu'on a vue, alors je me rappelle pas de son prénom, j'en suis absolument navré, elle nous a dit, alors si vous voulez repartir avec un chaton, vous repartirez avec un chaton, il n'y a aucun problème. Par contre, vous allez vous poser 10 minutes dans. Là, on est juste à côté, hein, vous ne voyez pas parce que c'est de la radio, on est juste à côté de la petite chatterie. Elle nous a dit, vous vous posez 10 minutes là-bas et vous voyez quand même s'il n'y a pas un de nos vieux matous qui vous plairait pas. On n'était pas assis depuis 4 secondes qu'il y a 2 chats qui se sont mis sur dans le sac à main de mon épouse, en l'occurrence, et sur mes genoux à moi. Et on est reparti avec notre petite chaka qui va avoir 8 ans cette année et qui est un amour comme pas permis. Donc voilà, c'est un petit message que je fais passer aux auditeurs. C'est oui, les chatons, les chiots, c'est super mignon, tout ce que vous voulez. Mais il y a des animaux qui restent parfois des années dans les refuges et qui meurent.
Oui, puis
meurent,
sans parler du fait qu'un chaton ou un chiot, c'est pas le même travail qu'avec un animal adulte. adulte.
Exactement.
Et ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que malgré tout, il peut arriver que des gens qui ont pris des shows reviennent avec, qu'ils n'arrivent pas à assumer bêtises des shows. Donc c'est à réfléchir même pour un show ou un chat.
Chez les chiens, le souci, c'est qu'ils grandissent.
Oui, c'est le principe.
mais
tout le monde. Mais non, mais justement,
ça paraît évident comme ça. Mais
il n'y aurait pas tant d'abandon et de retour, j'imagine, s'il y avait une vraie prise de conscience.
Il peut nous arriver d'avoir des. Mmh. Là, j'ai un de nos chiens en tête, un chien qui a à peine plus d'un an, qui a déjà été abandonné 4 fois, quoi.
4 fois.
Oh là. Donc voilà, c'est vrai, comme ça, dit comme ça, quand on le vit pas au quotidien, ça peut paraître anecdotique, mais c'est une réalité, parce qu'on ne supporte pas, parce qu'un chiot, c'est pas propre, un chiot, ça détruit, un chiot, ça mordit, et les gens ne prennent pas suffisamment en compte ce genre de questions, et malgré que voilà nos soigneurs sont très attentifs à ça et préviennent bien les gens, malgré tout voilà. Et pour un jeune chien, à chaque fois, enfin pour tout chien, le retour au refuge est terrible. Mais alors sur un jeune chien, ça fait quand même des dégâts. Ouais. Oui, bien sûr.
Ouais. Les gens prennent pas conscience que c'est que l'abandon. Ouais, l'abandon d'un chien, c'est l'abandon d'un chien. Voilà, on le pose. Mais non, un chien, il gère l'abandon, je dirais pas comme un enfant, mais presque. Ouais. C'est comme ça, c'est un traumatisme à chaque fois.
Exactement, clair. Un vrai traumatisme.
C'est clair. Et là, en l'occurrence, c'est des traumatismes qui s'accumulent.
Oui, bien sûr. Bah, dans un cas comme ça, oui, 4 abandons à moins d'un an.
Oui, mais là, il a tout juste un peu plus d'un an. Hein.
Ouais.
Mais forcément, effectivement, comme expliquait Philippe, un chien avec une problématique de malpropreté, forcément, plus on va l'abandonner, plus cette problématique-là, elle va s'aggraver. Et c'est le chien, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, qui subit les conséquences d'humains qui ne savent pas gérer ce à quoi... ils sont dus en tant que propriétaires d'animaux. Et on se bat pour ça.
En fait, les gens ne réfléchissent pas assez. Comme vous l'avez dit, ils voient le côté peluche et ça va être bien d'avoir un chien à la maison, les enfants ils vont être contents.
Bien sûr,
mais en fait, notre travail à nous tous aussi, c'est en tant que bénévole et en tant que... c'est de répéter encore et encore que l'adoption, c'est pas quelque chose... qu'on décide sur un coup de tête, en fait.
Bien
c'est
sûr.
Quelque chose qu'on réfléchit, c'est important, c'est, comme disait Philippe, c'est presque comme adopter un enfant. Quand on adopte un enfant et que et on se rend compte qu'il a mauvais caractère, et ben on va pas aller le rendre parce que oh là là, il crie, enfin voilà, c'est un travail. Et il faut prendre conscience de ça.
C'est que c'est un être vivant, tout simplement, déjà de base, et puis doté de sentiments aussi qui peut
l'aider. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Malheureusement, l'animal fait partie aussi de ces objets, malheureusement, dits de consommation. Et quand on n'en veut plus, on s'en débarrasse.
Ouais.
Voilà. C'est vraiment contre ça qu'on lutte.
J'imagine, mais c'est vrai. Alors là, je vais me mettre dans la position vraiment de quelqu'un de très, très naïf. Mais ça me paraît, en 2021, qu'on est encore à répéter ça, alors comme tant d'autres sujets de toute façon, mais ça n'a pas changé, en fait. Est-ce qu'il y a quand même eu une évolution positive de la situation où, allez-y, vous pouvez dire la vérité.
C'est la seule chose, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe en tant que président, moi j'ai juste l'impression qu'aujourd'hui, la maltraitance animale, l'abandon sont beaucoup plus médiatisés.
D'accord.
Et les gens vont beaucoup plus se lamenter de ce type de situation. Mais voilà, ça s'arrête là.
Ouais, d'accord.
Voilà. Puis, il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens, quand on leur parle de maltraitance, pour eux, c'est taper un chien. Hein, il n'y a pas que ça, la maltraitance. La maltraitance, c'est de ne pas avoir à manger, c'est de ne pas avoir à boire, pas avoir des caresses, pas avoir ce que tout...
Ne pas sortir.
Mais voilà, c'est ça. Et les gens pensent que... la maltraitance, c'est ça. Non, la maltraitance, ça commence beaucoup plus bas. Un chien qui n'a pas sa gamelle tous les jours, quelques caresses, ça commence à être de la maltraitance. Quand on voit des chiens qui sont attachés au bout d'une chaîne, ils ne sont pas battus, ils n'ont rien, ils ont à manger, ils ont tout, mais c'est de la maltraitance.
Ouais. D'accord. Non, mais c'est intéressant de le souligner parce que on n'a pas de limite par rapport à la maltraitance à un enfant par exemple. On a tendance à mettre l'échelle très très bas pour et à juste titre.
Oui,
attention,
juste titre, bien sûr, oui.
À très juste titre. Mais on a peut-être plus de difficultés à le transposer à l'animal justement, alors que au final, c'est la même chose.
Alors, les gens, ça alerte beaucoup plus facilement parce que moi, je fais aussi des enquêtes de maltraitance.
Ouais.
Les gens, ça alerte beaucoup plus qu'avant.
D'accord.
Mais voilà, on voit des cas, mais c'est juste, se passe des choses, des animaux qui sont dans des situations, mais on se dit effectivement en 2021, comment c'est possible.
Ouais.
Et c'est, oui, c'est franchement inquiétant quand on voit ce que l'être humain peut faire à des animaux. C'est
quand on voit qu'on peut aller dans un magasin, acheter un paquet de pâtes, acheter un truc, et puis acheter un chien, il y a un truc qui ne va pas, quoi.
Je suis assez d'accord avec ça.
Donc là, je sais pas, au magasin, avec un caddie, on ressort avec des pâtes, des biscottes, et puis un chien.
Et ben,
voilà, c'est parti.
C'est vous qui mettez le sujet sur la table. Du coup, on va aller dans cette direction-là, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la question, et je ne doute pas que ça intéressera nos auditeurs également. Les animaleries, du coup, parce que alors là je vais donner mon avis, hein, en bon animateur très très partial que je suis. Pour moi, ça m'est jamais venu à l'idée d'aller mettre 1000, 1500, 2000, bien plus encore pour un animal. Moi, mon matou de gouttière, il me va très bien, et puis il n'y a pas plus amoureux que moi d'elle. Et ça m'a toujours fait mal de voir des animaleries qui vendent des animaux pas possibles, alors que les refuges comme l'Apagie et puis comme des dizaines et des centaines d'autres recèlent de perles d'amour et de petites boules de poils.
Des chiens qui sont juste exceptionnels. Moi, je suis, depuis 4 ans que je suis en refuge, je suis choquée de voir les chiens. C'est des chiens extraordinaires. Voilà.
D'accord.
Tout en sachant, alors on a le problème des animaleries, après il faut savoir qu'en France on est un des derniers pays d'Europe à autoriser encore les animaleries.
Ah, ça c'est intéressant de le souligner.
Mais la France est en retard encore une fois.
Non, mais est-ce qu'on peut s'arrêter 5 minutes, parce que dans le reste de l'Europe,
il y a beaucoup, essentiellement les pays d'Europe du Nord, qui sont souvent plutôt précurseurs en la matière, donc il est interdit de vendre des animaux en animalerie. Même au-delà de ça, en Belgique, il faut un permis maintenant pour avoir un animal de compagnie. En France, on en est très 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 loin, mais au-delà des problèmes d'animalerie, on a aussi des vrais problèmes au niveau des éleveurs. Je pense que vous connaissez le problème qu'on a essentiellement, je pense, aux Malinois, ce chien très à la mode, où on n'hésitera pas à mettre des Malinois qui sont ce qu'on appelle des lignées de travail, donc qui ont des besoins vraiment spécifiques, qu'on donnera demain à quelqu'un qui n'a jamais eu de chien.
D'accord.
Et nous, après, en refuge, on se retrouve avec ce type de profil de chien, parce que c'est ingérable au quotidien, mais l'éleveur, c'est pas son problème, c'est 1000 euros à Malinois dans un élevage.
D'accord.
Voilà, donc il n'y a pas de souci et c'est absolument pas réglementé. Donc il y a même en amont de ce que nous on va pouvoir faire en refuge un vrai problème de gestion des élevages, des animaleries où effectivement on voit de moins en moins de chiens, parce qu'on va malgré tout on va réussir à y venir. Mais il y a vraiment un gros problème en amont, et moi je suis en l'occurrence, en ce qui concerne le Malinois, très inquiète pour l'avenir de ce chien. Parce que là, on en a beaucoup. À la Pagie, il est arrivé d'avoir un tiers du refuge avec des Malinois.
Un tiers.
Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Et demain, on en revient toujours à la même chose. C'est ce pauvre chien qui est responsable de la bêtise humaine parce qu'il est à la mode.
D'accord.
Et parce que, sur un plan financier, c'est tout bénef pour les éleveurs.
Oui, et puis il n'y a pas de suivi. Enfin, je ne connais pas trop ce domaine-là, mais il n'y a pas de suivi. On achète son chien et puis on est lâché comme ça. Et
c'est ça.
Sûr qu'avec des Malinois, où ça demande quand même beaucoup de travail, j'imagine, il faut absolument qu'il y ait un suivi et que les gens y soient aidés. Et on le voit même au refuge, parfois, les gens, en fait, ils adoptent. Et en fait, il faut vraiment leur répéter qu'on est là après l'adoption.
Quoi. Bien sûr.
Je
confirme.
C'est la différence
c'est important d'avoir ce suivi.
C'est la différence entre l'animalerie et le refuge.
Voilà.
Parce que l'animalerie, une fois qu'ils ont vendu, c'est comme le paquet de pâtes. Après,
c'est le rapport à la consommation.
Exactement.
La grande surface ne va pas vous appeler pour savoir comment vous avez fait vos pâtes.
En gros, on a un service après-vente.
En résumé, c'est oui.
C'est un peu ça. On essaie de suivre justement que déjà quand un animal est adopté, il est, vous avez dû le voir, si vous avez adopté un, il n'est pas du jour au lendemain à votre nom.
Non.
Attends quelques mois pour être sûr d'avoir fait le bon choix.
Je suis en règle, monsieur l'agent.
C'est une période de concertation entre l'adoptant et le refuge, et de façon à ce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on vient tout de suite. On va pas essayer de ramener le chien ou le chat tout de suite parce qu'il a griffé, parce que ci, parce que là. On va chercher les causes et on va travailler avec l'adoptant pour
un vrai travail d'accompagnement.
De modifier ce qu'il ne peut pas avoir dans un magasin.
Non,
ni chez un éleveur. Sauf les bons éleveurs.
Ouais.
Il y a certains éleveurs quand même, quand on les interpelle en leur disant voilà, ça va pas avec le chien, je vais l'emmener en, je vais l'abandonner en refuge, qui récupère le chien.
D'accord.
Mais ça reste exceptionnel. Hein.
Ouais, ouais, ça reste trop exceptionnel.
Le souci aussi, c'est que on est en train de travailler en ce moment avec le législateur et avec les présidents de refuge, si on vous écoute, parce que. Le problème, c'est qu'on a vu avec avec certains chiens, et là, on a peur que ça soit pareil avec le malinois, c'est qu'on caractérise le chien. On va le catégoriser, et après, alors on va dire aux gens, bah maintenant, il va vous falloir ça, ça et ça pour avoir ce chien. Et ben, ils vont prendre un autre chien, comme ils ont fait jusqu'à maintenant avec le malinois. On avait les rottes, on avait les staffs,
les chiens de première et seconde catégorie.
Ils ont caractérisé, et ben, on va les catégoriser, et ben maintenant, on a des malinois. Alors en plus, j'ai rien contre, mais quand je vois la police, la gendarmerie qui fait des spectacles avec leurs chiens, il y en a qui regardent ça. Ils se disent, tiens, ça serait pas mal.
Un chien policier à la maison.
Mais c'est, voilà, c'est ce qui a créé ce phénomène de mode autour du malinois. Hein. C'est ce qu'on a pu en voir. Et du coup, on se retrouve, nous, aujourd'hui, parce que voilà, du fait de son intelligence, le malinois est un chien qui s'éduque plutôt facilement, mais d'une sensibilité poussée à l'extrême.
D'accord.
Et on se retrouve beaucoup avec des gens qui montent leur chien, ce qu'on appelle au mordant. Donc faire mordre un malinois, c'est pas difficile du tout.
Alors,
j'ai envie de dire presque tout le monde peut y arriver. Par contre, l'apprendre à lâcher, c'est extrêmement compliqué.
D'accord.
Donc nous, on se retrouve au refuge avec des malinois qui ont été montés au mordant, qui ont mordu leur maître pour le coup, mais à qui on n'a pas appris à lâcher.
D'accord.
Et après, c'est notre travail à nous de devoir placer ces chiens qui ont pu être montés au mordant.
D'accord.
Et c'est un vrai cercle vicieux.
Alors on y arrive.
Oui.
On a certains chiens que l'on a pris en malinois, qui sont arrivés à la pagie, qui avaient un passé un peu difficile.
D'accord.
Et aujourd'hui, notamment un qui est à la brigade de recherche ici, et un autre qui fait de la recherche en avalanche.
D'accord.
Dans les Pyrénées.
Oui, parce qu'en fonction du profil du chien, on sait si on... Alors, on travaille en partenariat avec la gendarmerie et la police nationale. On connaît les profils attendus. Donc quand on voit un chien correspondant à leur profil, on les contacte, ils viennent tester le chien.
C'est super, enfin, je trouve
et
ça super.
Le dernier qui est parti, c'est Moscou qui est parti avec la police il y a 2 mois.
Ça, hein.
Voilà, c'est des chiens qui ont été éduqués au mordant, mais pour la gendarmerie, pour la police, ils ont besoin. Pas un chien qui mord de tout, mais un chien qui soit quand même légèrement. Il regarde le caractère, il regarde l'âge.
Des chiens courageux.
Il leur faut aussi un âge. Il leur faut. Enfin, ils font des tests ici, ils font des tests après là-bas pendant un mois. Et après, au bout d'un moment, et là, on en a un qui est là et l'autre il est dans les Pyrénées. Il monte en hélicoptère tous les hivers parce qu'il faut aller chercher.
Mais c'est une belle histoire, moi.
Mais c'est surtout que alors de temps en temps ça. J'ai envie de dire, entre guillemets, les âmes bien pensantes qui ont une idée du chien bisounours sur le canapé, qui sont parfois heurtés que ces chiens puissent partir à la police, sauf qu'aujourd'hui, un malinois, c'est comme ça qu'il s'épanouit.
Ouais.
Un malinois heureux, c'est un chien qui travaille. Alors, je parle pas de tous les malinois, je parle essentiellement des lignées de travail, mais c'est des chiens qui en ont besoin.
Et c'est là où la différence, c'est où se situe le besoin de l'animal, du chien.
Exactement, et c'est vrai que ça, il y a encore des gens qui ont un petit peu le mal à comprendre qu'un chien, pour être heureux, il a besoin de travailler. Toutes nos races de chiens, elles ont toutes des utilités, une utilité, elles ont été conçues pour, même le petit chihuahua, et le malinois, c'est comme ça qu'il s'épanouit.
D'accord.
Le Terre-Neuve, c'est les naufragés, c'est dans l'eau, c'est...
Les chiens de chasse,
enfin... Le malinois, c'est ça.
Très bien. Bon, écoutez, on a déjà eu plein d'informations déjà dans cette première partie d'interview. On va juste revenir sur l'apagie plus spécifiquement. Aujourd'hui, c'est combien de bénévoles, de soigneurs? Je ne sais pas s'il y a des vétérinaires. Vous êtes à l'apagie à l'heure actuelle?
Par le commencement, il y a déjà 9 personnes au bureau, conseil d'administration. Il y a 4 salariés.
D'accord.
C'est-à-dire un salarié chien, un salarié chat par jour.
D'accord.
Sachant qu'on travaille tous les jours.
Oui, bien sûr.
Les animaux, ils mangent tous les jours. Ils font
pas pensé.
Donc, il leur faut toujours une présence.
Bien sûr.
Du lundi au dimanche. Et à côté de ça, on a à peu près 400 cartes d'adhérents. Sachant que...
D'accord.
Les bénévoles qui viennent toute la semaine, c'est environ 80, en gros, sur toute la semaine. sachant que c'est pas toujours les mêmes. Enfin, dans la catégorie, vous avez une grande partie de retraités.
D'accord.
Et puis,
c'est
et
souvent après, ce qu'on nous dit quand on va interviewer des associations, hein, de toute façon.
Voilà. Mais après, il y a des, voilà, des jeunes filles comme ça qui viennent. Il y a des gens qui, comme les infirmières, par exemple, qui travaillent et qui viennent se défouler, n'ont pas forcément un chien à la maison, ben ils viennent se défouler là, passer une heure à sortir un chien et repartir au boulot le lendemain. Voilà.
Oui, parce que ça peut être ça aussi, le travail de bénévole, simplement venir, parce que voilà,
tout,
on parle
chien.
De tous ces chiens qui sont dans des box, ils ne restent pas dans des box 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.
Le travail du bénévole, justement, c'est la continuité avec le chien. Il faut toujours qu'il comprenne qu'il va être baladé en laisse dans sa vie. Donc il ne faut pas qu'on le mette simplement au parc pendant des mois, et puis que d'un seul coup, parce qu'il va être adopté, hop, on le met en laisse et on le fait partir. Donc il faut qu'il ait l'habitude de partir avec pas toujours le même bénévole en plus, pour avoir un petit peu de changement, et lui apprendre à faire ses besoins à l'extérieur, c'est important.
Bien sûr.
Et ça c'est le travail du bénévole dans la continuité du travail des soigneurs qui eux peuvent pas sortir tous les chiens, donc
non.
Ça c'est la continuité dans le travail.
D'accord.
Et c'est très important,
c'est primordial.
C'est primordial, toutes les pièces sont importantes.
Voilà, c'est
au niveau des chats, on les sort pas, mais il y a quand même des bénévoles qui viennent pour les caresser, pour passer du temps avec eux, pour toujours qu'ils aient le contact avec l'humain.
Mais pas surtout qu'ils peuvent être demandeurs.
Mais pas spécialement.
Exactement.
Si on n'avait pas les bénévoles, les animaux, ils verraient les soigneurs et le vétérinaire.
Ouais. Oui. Le rapport à l'être humain est biaisé, du coup.
Ça fait dur quand même.
Après, pour les faire adopter, ce serait compliqué.
Même si nos soigneurs aiment bien les animaux, les caressent et tout, le travail du bénévole derrière est aussi important.
Ben, c'est aussi un travail de reconstruction de la confiance envers l'être humain aussi. Parce que ça me paraît
bien dans le prolongement du travail des soigneurs, du travail du Polinra et tout ça, voilà. Mais avec, autant il y a des chiens où vous attachez, vous les sortez, il n'y a pas de souci. Autant les chiens du Polinra, il va falloir les sortir vraiment encadrés.
Voilà. Manière
pas n'importe comment.
L'aide des bénévoles est importante aussi dans ces cas-là.
Ouais. Ouais. Et de toute façon, on y reviendra sur le Polinra dans la deuxième moitié de l'interview. On va faire un petit interlude musical pour conclure cette première partie. Et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute sur Radio RKS. On se retrouve tout de suite après sur le 97FM.
100% Grenoble.
100% Grenoble. Ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. Je finis mon assiette, je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout, on peut se nourrir d'espoir. Je suis racheté un chien, comme l'année dernière. Ma veste se démode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout, on peut se nourrir des se nourrir d'espoir. J'ai croqué la vie, avalé les pépins. J'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir. La 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 la.
De retour sur l'antenne de Radio RKS sur le 97FM ou sur radio-rks.fr. On est toujours dans les locaux de la Pagie au Versou, dans la banlieue grenobloise. On vient de passer une première demi-heure ensemble absolument passionnante sur tout ce qui se fait à la Pagie. Et on a parlé de droits des animaux aussi. On n'a pas parlé que de la Pagie en l'occurrence. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne pour reprendre cette deuxième moitié d'interview. Donc je suis toujours avec Laura, Anna et Philippe. Me tourner vers Anna pour qu'on parle un petit peu plus de ce fameux pôle Hydra. On en a déjà parlé dans la première partie, mais on va pousser un peu les investigations. Qu'est-ce que c'est le pôle Hydra ? D'où ça vient ?
Alors le pôle Hydra, c'est en fait c'est la continuité pour moi d'une expérience que j'avais déjà dans un autre refuge dans lequel j'ai passé presque 3 ans, mm-hmm. où j'étais partie du constat en fait que certains chiens vivaient des situations particulièrement difficiles, mais que les refuges n'avaient pas concrètement le temps de prendre en charge un accompagnement particulier pour ces chiens parce que c'est beaucoup de travail. Mmh. Et on se retrouvait avec des chiens qui passaient des années en refuge parce que voilà, pas de solution. Mmh. Donc j'ai un petit peu réfléchi et j'ai proposé de mettre en place un pôle d'accompagnement. Alors on le présente souvent comme un pôle dédié aux chiens dits difficiles, je n'aime pas ce mot-là. Mmh. J'aime pas c'est parce que forcément ça colle une étiquette aux chiens. Ouais. Je parlerai plutôt de situations difficiles. Ouais. Parce que alors dans l'ancien refuge où je suis intervenue, j'ai fait adopter presque une quarantaine de chiens.
Issus de ce programme-là.
Voilà.
Enfin, qui ont été concernés par ce programme.
Exactement. Ouais. Et il n'y en avait aucun difficile dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire difficile, mm-hmm. on va dire un chien agressif. Voilà. Alors il y a du chien agressif, on va pas se mentir, mais agressif parce qu'il a subi des choses. Là, j'ai en tête un jeune malinois qui avait vécu la première année de sa vie enfermé dans une cage pour l'empêcher de grandir parce qu'il était destiné aux deals dans les cités. Et j'ai pu voir des vidéos de lui qui circulent où on le voit traîner par un scooter. Comme une autre vidéo où on le voit massacré par des adolescents à coups de batte de baseball.
D'accord.
Alors qu'est-ce qui est difficile ? C'est-ce que c'est le chien ou c'est ce qu'on lui a fait subir ?
Non, mais la question mérite d'être posée.
Voilà, donc c'est pour ça que j'aime pas bien ce mot-là. On n'arrive pas à trouver une autre définition. Enfin bon, bref. Et moi, et en plus, du coup, ce chien, avec tout ce qu'il a vécu, il se retrouve en plus en refuge, mmh. avec son passé. Et c'est ce passé subi, enfin fait par les humains, qui fait qu'il n'est pas facilement adoptable. Sur les cas les plus faciles, c'est souvent des chiens qui font des allers-retours parce qu'ils sont quand même adoptés.
Ouais.
Ils reviennent parce que pour différentes raisons.
Donc voilà. Toujours la bêtise humaine.
Arrête. 99% des cas, voilà. Ouais. Ce sont quand même des chiens qui ont subi des choses de la part de l'être humain. Donc voilà, j'y réfléchis. Je me dis quoi, voilà, de ce que j'avais vu, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner au mieux ces chiens-là. Donc j'ai réfléchi au fil des années, des mois de travail, donc en ciblant certains chiens comme je fais aujourd'hui à la Pagie. C'est beaucoup de travail d'éducation. Ouais. Alors éducation, ça va être effectivement des chiens qu'on va resociabiliser, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, l'important de garder ces chiens dans la vie. Ouais. Dans le monde, parce que la vie, ce n'est pas le refuge. La vie, c'est voilà, ça va être tout simplement demain amener un chien en ville, dans un parc, voir des vélos, des enfants,
du mouvement et de la vie.
Du mouvement. Donc il y a ce travail-là, et tout le travail après de mise en lien avec la famille. En majuscule, qui méritera ce chien, parce que moi je réfléchis dans ce sens-là. Ces familles-là, elles ont la chance de vivre une histoire extraordinaire avec ces chiens-là. toutes les adoptions sont des histoires extraordinaires, ouais. Mais les chiens issus du Polydra, c'est d'autant plus particulier parce que voilà, ils transportent ces bagages-là. Et on tombe sur des gens exceptionnels qui sont prêts à tout faire pour sortir ces chiens de malgré ce qu'ils ont vécu.
Ouais. Ouais.
Malgré que ça peut être très difficile parfois, parce qu'il y a des moments de tristesse, des moments de grosse joie, parce que voilà, ça reste des chiens qui sont fragiles. Donc voilà, dès qu'il y a un candidat à l'adoption, on me transmet la demande, on étudie le dossier avec toujours en partenariat avec les soigneuses, qui sont d'une aide précieuse pour moi, parce qu'elles connaissent très très bien ces chiens, les pratiquent au quotidien. On rencontre les familles, on présente les chiens, parce que ce qu'on voit en photo, c'est pas toujours ce qu'on voit en vrai, j'ai envie de dire.
Je suis photographe professionnel, donc croyez-moi, je, voilà, sais vous savez. Je sais à quel point la photographie est un pur mensonge.
Voilà, et on a des gens, ah oui, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce chien, et puis quand ils le voyaient en vrai, effectivement, bah déjà, le chien me montre, je dis me, parce que je le vois à ce moment-là, des choses, il se désintéresse de certaines personnes.
Ouais.
À l'inverse, le lendemain, je vais lui montrer une famille, et là... que des coups de cœur, quoi, le chien va rester collé. Donc quand c'est réciproque, je propose des prévisites à domicile. Donc je vais avec le chien au domicile des personnes, on voit ce qui se passe. J'observe beaucoup, j'observe le chien. J'ai eu des chiens, quand je suis arrivée dans le domicile, qui m'ont dit « Anna, on peut y aller là, parce que ça va pas du tout ». Donc nous sommes partis. C'est un truc de fou, ce qui se passe pour moi dans ces moments-là avec les chiens, ce que je vis avec eux, c'est juste extraordinaire. Et puis quand ça se passe, donc l'adoption se fait... Et je reste présente pour ces familles tant qu'elles en ont besoin.
En post-adoption.
En post-adoption. Et aujourd'hui, je suis quasiment en lien avec toutes les familles. Il se passe une aventure humaine que moi, je n'avais pas non plus envisagée en mettant ça en place. Parce que moi, où je crée un lien avec ces familles qui ont à cœur de me montrer les chiens, que je retourne voir, que voilà.
Ça fait combien de chiens qui ont été...
pour mon ancienne association, on était presque à 40 chiens.
Ouais,
là, sur la pagie, on en a un là qui est en bonne voie de partir. Donc, on va prendre le temps de faire les choses correctement.
C'est sûr.
Parce que c'est ce jeune chien dont je vous parlais qui a déjà fait plusieurs allers-retours. Et là, aujourd'hui, sur le Polydra, on a aussi la situation de chiens comme Hydra. Où là, le travail est différent parce que là, il y a tout un travail de rééducation. Du fait du vécu d'Hydra. C'est un chien, une fois qu'il a créé un lien, je le vois avec les soigneuses, je le vois avec moi aujourd'hui, qui est par contre extrêmement attaché. Mais qui a, voilà, qui est pour le monde entier, pour lui, est dangereux.
Ouais.
Tout lui fait peur.
Ce qui est important, c'est que quand ce genre de chien passe le portail ici, ils ont déjà perdu la confiance de l'humain.
Exactement.
C'est la première chose qu'il va falloir lui faire comprendre. Et ça, quand un chien comme Hydra a eu les dents limées, on ne sait pas dans comment. Si c'est sous anesthésie, si c'est tout ça. C'est un traumatisme qu'il a dans la tête, le chien. Il fait à sa place. Et après, il arrive ici, il revoit encore des humains. Le travail, c'est justement de lui faire voir la différence.
Il faut le challenge entre guillemets, c'est de lui montrer que l'humain n'est pas que de la cruauté, que de la méchanceté. Moi, pour vous donner une idée, moi j'ai passé 2 mois avec Hydra sans strictement rien lui demander. On est allé se promener, on a mangé des croquettes, des choses comme ça, et voilà, il vient se coller à moi. Donc ça, c'est déjà le premier travail de mise en lien. L'idée, c'est de le remettre aussi doucement dans la vie, puisque ça fait 5 ans qu'il est ici. Et sur ce type de situation, on travaille en partenariat avec un éducateur canin. Donc là, en ce moment, c'est Cyril Pellafiné, d'Éduc Pile-Poil, qui nous aide énormément dans notre travail, qui fait un travail de fou. Pour la pagie de manière générale, puisqu'il avait déjà eu l'expérience avec Marley, et qui nous accompagne sur ce travail qui peut parfois être très long. Alors moi, j'ai arrêté de faire des plans sur la comète, parce que aussi bien dans 3 mois Hydra il sera transformé, aussi bien ce sera dans 2 ans.
On peut pas faire de paris sur l'avenir d'un chien.
C'est un chien tellement traumatisé que ça prendra le temps qu'il faudra. Et je remercie la Pagie de me permettre de faire ce travail et voilà d'accompagner ces chiens au mieux dans ces situations-là.
C'est déconstruire un conditionnement négatif en fait.
C'est exactement
C'est pas facile, quoi.
Voilà. Il y a des conditionnements qui sont. Le terme est exact, c'est du conditionnement. Je disais tout à l'heure, les Malinois conditionnés au mordant. Malheureusement, pour déconditionner ça, c'est un boulot.
Faramineux.
Exactement. Sauf que Hydra, c'est juste un chien exceptionnel.
Ouais.
Voilà. C'est un amour de chien et qui vit le monde effectivement comme que de la cruauté parce qu'il n'a connu que ça. Le seul bonheur que Hydra a connu aujourd'hui, c'est celui apporté par les soigneuses, les quelques bénévoles qui s'occupent de lui. Mais c'est tout, quoi. Voilà.
Il faut savoir que, parce qu'il y en a qui vont se poser la question, pourquoi il y a eu les dents limées ? C'est tout simplement parce qu'il y a encore des combats de chiens.
Ouais.
Donc voilà, ce chien est issu de ce genre de choses. On leur lime les dents pour pas qu'ils abîment l'autre chien tout en lui faisant mal,
qui reste combatif, entre très gros guillemets, sans trop blesser.
Donc il y a tout ce traumatisme. Donc on le devine, hein, nous, on peut pas le savoir parce que c'est les chiens qui arrivent de la fourrière, on sait pas, ils les récupèrent dans la rue, on sait pas, mais on sent le traumatisme, on sait.
Bien sûr.
On voit quand ils ont les dents limées, on se pose la question, on dit il y a quelque chose derrière, quoi. Et puis on imagine.
Surtout que ça pose aussi la question, parce qu'il y a le rapport aux humains, mais du coup un chien qui a été utilisé, il n'y a pas d'autre mot pour du combat comme ça, c'est son rapport avec ses propres pairs aussi, enfin, dans un refuge où il y a d'autres chiens, même d'autres animaux au sens plus large.
Oui, et là c'est un autre type de travail qui se met en place,
voilà, c'est ça.
Où là ce qu'on va demander entre guillemets au chien, c'est pas d'être ami avec tous les chiens de la terre,
non,
mais par contre d'avoir le comportement adapté pour que les adoptants, et pas, moi je vois des personnes quand elles promènent leur chien qui subissent la promenade parce qu'elles sont cerf-volant, parce que, enfin voilà. Ouais. Et l'idée, c'est pas ça. C'est un autre type de travail. Ouais.
C'est une autre éducation.
Exactement.
En fait. Ce sont les éducations, même, on peut le mettre.
Exactement. Et c'est pour ça que moi, sur tous les chiens que j'ai pu accompagner, j'ai appris de chaque chien. Je continue à apprendre de chaque chien. C'est une richesse. Ils m'apprennent tous tellement que voilà. Alors des fois, on me dit, ouais, ça te prend du temps. Ouais, mais.
Il faut savoir aussi que le Pollinera, c'est pas simplement Anna, c'est aussi des éducateurs, c'est aussi un vétérinaire, un médecin comportementaliste. Voilà, c'est ça le pôle, en fait. Que sur un chien, tout le monde va travailler son petit côté, et puis tout ça va faire que on va trouver le petit truc qui fait que le chien.
Oui, c'est un travail effectivement. Voilà. Pluridisciplinaire, où on s'enrichit des ressources de chacun pour accompagner le chien au mieux, mais aussi pour trouver la famille idéale. Y a, sur certaines situations désespérantes, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, d'un seul coup, vous avez la famille idéale qui arrive, vous ne savez pas d'où elle sort. Sur des chiens qui sont là depuis 2-3 ans, d'un seul coup, alors on a envie de leur dire, mais pourquoi vous n'êtes pas manifesté plus tôt? Mais voilà, et moi j'y crois, j'ai confiance... dans les chiens à 200%, mais aussi voilà, dans ces familles, parce que je sais que...
Il y a une chose aussi, c'est que quand un animal va rentrer ici, il va avoir une date d'entrée, mais il n'aura pas de date de sortie.
Oui, bien sûr.
Il sortira quand il sera bien, quand il sera...
Il sera prêt.
Quand il sera prêt.
Ces animaux, ces chiens-là, ils vont être pris en charge dès le début. D'autres chiens vont rentrer ici, vont pouvoir être adoptés sans aucun problème. Et ces chiens-là vont être pris dès qu'ils vont arriver ici. Jusqu'à... Il n'y a pas de date, en fait. On a 3 mois de surveillance avant de les mettre sous le nom de la personne. Mais ce n'est pas là qu'on va s'arrêter. On ne va pas s'arrêter ce jour-là parce que on va continuer à travailler jusqu'à temps que on soit sûr...
Que tout va bien.
Que tout va bien.
Et ce qui est très... C'est pareil, moi je m'y attendais pas, mais effectivement, au final, les gens sont très contents de cet accompagnement. Et j'ai jamais eu à aller chercher les gens pour avoir des nouvelles des chiens. C'est eux-mêmes me demandent de venir voir les chiens chez eux. Alors à chaque fois, ça c'est la plus belle des récompenses parce que j'ai des fêtes extraordinaires, parce que le chien n'oublie pas. Et j'ai le bonheur de vivre ça avec eux et sur chacun des chiens que j'ai accompagnés quand je reviens, c'est...
D'ailleurs, on le voit sur vos réseaux, en l'occurrence. C'est souvent que vous partagez des petites photos de qu'on vous a envoyées de nouveaux propriétaires, de nouvelles familles, d'animaux qui vous envoient des photos toujours régulièrement. C'est quelque chose qu'on voit bien sur vos réseaux.
Ça. Ouais.
Les anciens adoptés qui reviennent et qui s'aperçoivent que voilà, il y a leur soigneuse.
C'est toujours la fête.
C'est fou. Même au bout de 2 ans, 3 ans, il y en a qui ont été adoptés dans la première année où j'étais ici, qui reviennent et qui reconnaissent.
Bien sûr.
Ça, impressionnant.
Puis ça doit faire chaud au cœur.
Ça fait bien sûr.
Ah oui, ça c'est sûr. Dans les moments difficiles, on repense à ça, ça fait du bien.
Voilà, ouais, bah, c'est, il y a des moments difficiles, mais.
Non, mais c'est bien cette petite note aussi de positivité.
Mais moi, j'ai envie de vous dire, je parle en tant qu'Anna bénévole, moi, voilà, mais je fais ça juste pour ça. Parce que voilà, quand je vais retourner voir les chiens, voilà, il y aura.
Il y a pire comme motivation, moi, je pense. Hein,
voilà, c'est juste de les voir, de les voir dans leur famille et ce qu'ils peuvent nous donner, c'est juste extraordinaire.
Ah, très bien, parfait. Je vais me tourner vers Laura, du coup, puisque ce Polydra, il y a eu un financement participatif. Bon, je ne mets pas les syllabes dans le bon ordre, moi, ça ne va pas du tout. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Et ben, du coup, en fait, donc moi, c'était dans le cadre de mes études que je devais organiser voilà, une campagne de financement participatif avec une association. Mm-hmm. Et du coup, j'ai décidé de me tourner vers le refuge, comme j'ai dit... Mm-hmm. Pour plein de raisons, mais voilà. Et du coup, en fait, on a lancé cette campagne pour pouvoir financer justement les séances d'éducation pour les chiens « difficiles » entre guillemets du refuge. Parce que le refuge, c'est pas gratuit, les séances d'éducation, ça coûte cher. Et le refuge avait besoin d'aide pour les financer. Et du coup, on a monté cette campagne en quelques mois et... On a quand même réussi à récolter 5 500 euros, donc c'est pas rien.
Pas mal.
Donc, c'est juste énorme, c'est une chance inouïe d'avoir eu cette cagnotte.
Ouais. Et vraiment, je pense que le refuge en avait besoin et puis vraiment, j'ai trouvé que c'était génial. Tout le monde s'est mobilisé, tous les adhérents, tous les bénévoles. Il y a eu beaucoup. D'engagement aussi sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de messages d'encouragement, de dire que c'était une bonne idée. Mmh. Et voilà, et ça a ramené aussi pas mal de monde en fait.
À s'intéresser aussi à la Pagie en parallèle.
Qui se sont sentis touchés par ce projet et qui sont venus vers le refuge.
Mmh. Surtout dans une année, c'était en 2020 du coup,
ouais,
c'est
ouais,
ça, dans, en pleine crise sanitaire où difficile de faire du présentiel à droite ou à gauche pour faire parler du projet. C'est passé que par les réseaux numériques du coup, absolument.
Que par les réseaux sociaux. Du coup, on a mobilisé tous les adhérents, tous les bénévoles, et puis communication sur les réseaux sociaux. Et c'était super de voir la mobilisation qu'il y a eu. Ça, même dans une période un peu compliquée pour tout le monde.
Mmh, et c'est d'ailleurs, par rapport à ça, je trouve que c'est chouette de voir que les gens sont touchés par la situation de ces chiens.
Ouais.
Et ça, c'est pareil, hein, ça rebooste aussi.
Ouais, j'imagine.
De voir que ça mobilise quand même qu'il y a du monde. Voilà, quand moi j'entends 5 500 euros, je trouve ça juste. En cette période compliquée, effectivement,
c'est ça,
c'est difficile pour tout le monde, je trouve ça juste extraordinaire.
Mais c'est quelque chose, nous, qu'on observe beaucoup en tant qu'intervieweur. On va voir beaucoup d'associations, alors dans des domaines extrêmement variés. Mais cette période un peu compliquée dont on en a smart, très clairement, ça a quand même, malgré la mocheté manifeste du monde, réveillé aussi les consciences, voire les actions de beaucoup de gens sur des domaines qui leur parlaient ou dont ils ignoraient même l'existence, en l'occurrence, pour se dire, on est dans une période moche, on va essayer de faire quelque chose de joli.
Je pense qu'on s'est dit, on en a marre, on se tourne vers des choses auxquelles...
Pour que ça dure.
Oui, alors
ça dure.
Je suis un nihiliste fini, donc je vous dis que non, mais je l'espère pas. Au fond de moi, je ne l'espère pas. Mais c'est vrai que c'est le genre de projet qui a beaucoup parlé pendant cette année compliquée, qui, comme disait Anna, ça a été compliqué pour tout le monde à bien des niveaux.
C'est ça.
C'est quand même beau que des choses comme ça arrivent, parce que 5 500 euros, c'est quand même pas rien.
C'est
absolument énorme.
Avec le Covid, les gens ont appris à se laver les mains d'abord.
C'est un petit peu dommage qu'il en arrive là pour dire aux gens qu'ils acceptent de se laver les mains quand même.
Ils ont appris aussi ce que c'était que le mot solidarité.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'ils en entendaient parler, mais et là, ils ont vu que vraiment la solidarité, qu'est-ce que c'est et dans tous les domaines, on voit bien que là, actuellement, les gens se tendent la main. C'est bien.
Ouais, mais ça pourvu que ça dure, en effet. Malgré mon petit trait d'esprit, je souhaite quand même que ça dure également. Parce que là, du coup, avec 5500 euros, puisqu'on parle de cette somme-là, du coup, ça va aider pour les séances d'éducation, c'est
voilà,
ça,
c'est ça. Tout l'argent qu'on a récolté est destiné aux séances d'éducation pour que tous les chiens, enfin, tous les chiens, dans ces 5500 euros, pour que les chiens qui en ont besoin puissent avoir accès à ces séances,
voire même même pension si nécessaire, voilà. Parce que d'accord. Ça c'est aussi une des possibilités c'est la chance qu'a eu Marley, chien de la Pagie, qui a pu partir pendant plusieurs mois chez Cyril Pellafiné.
D'accord.
Parce que là pour certains chiens, le refuge est un vrai problème supplémentaire. Quand ils sont en grande difficulté, il faut pas se leurrer. Hein, refuge, c'est anxiogène. Les chiens, ils dorment peu, ils mangent peu. C'est extrêmement difficile. Et quand on a un chien comme Marley qui avait aussi sa problématique à lui. La rééducation n'était pas envisageable au sein du refuge.
D'accord.
Ça aurait été extrêmement compliqué pour Marley de... Voilà. Et on a eu la grande opportunité que Marley puisse partir chez Cyril pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, Marley est en famille. Avec le suivi, la Pagie reste présente, Cyril reste présent. Et ça permet effectivement aussi cette possibilité-là, quand vraiment on se rend compte que la rééducation... Vous pouvez faire une rééducation, mais... Au sein du refuge, sur certains chiens, ça ne fonctionnera pas.
Ça fonctionnera pas.
Il faudra plus. Donc cet argent,
D'accord.
Cet argent, on en avait vraiment besoin et c'est top.
De toute façon, on ne va pas se leurrer. Hein. On a beau rester dans l'associatif, le nerf de la guerre, ça reste toujours le même.
Hein, donc, exactement. Sans argent, on ne fait rien.
Sans argent, on ne fait strictement rien. Ni
malgré
soins,
tout.
Ni nourriture, ni... l'amour, c'est gratuit, heureusement.
Oui,
heureusement.
Mais c'est le cas pour toutes les associations, effectivement. On parle de protection animale, mais c'est pareil pour toutes les associations.
Oui, sans argent, peu importe l'association. Mais du coup, 5500 euros, bien joué.
Oui, franchement, c'est une très belle opportunité.
C'est grâce à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous suivent.
Parce que là, c'était que des dons particuliers, du coup, c'était pas un Hello Asso, c'est ce qu'on disait
on a eu quelques associations, je crois, avec qui on est en contact, qui ont fait des dons. Mais c'était tout des particuliers, des bénévoles, et on a eu des beaux dons. Et c'était super de voir ça.
Eh ben super, très bien. Encore une petite note de positivité.
Ça fait du bien.
Bien écoutez, on va tout doucement se diriger vers la fin de cette interview. On a évoqué tellement de choses. J'ai l'impression qu'il y aurait tellement de choses encore à dire autour du sujet.
Nous, on pourrait en parler des heures.
Voilà, c'est ça.
On reviendra. Qu'est-ce que je voulais ? On va terminer un petit peu sur aujourd'hui, là, les auditeurs, les auditrices qui écoutent cette interview. Je ne doute pas que ça les aura passionnés et qu'ils veulent immédiatement venir filer un coup de main à la Pagie.
Avec plaisir.
De quoi a besoin la Pagie en termes de ressources humaines à l'heure actuelle ?
On a toujours besoin de bénévoles, ça c'est sûr.
Il faut le dire et le répéter encore.
En permanence, on a besoin des bénévoles. Savoir que, pour le dire, ils sont libres de venir autant de temps qu'ils veulent. Le jour qu'ils veulent. Il n'y a pas de... Voilà, s'ils ont besoin de passer une heure, deux heures, trois heures, ils viennent, ils passent, promènent les chiens, ils vont un petit peu avec les chats.
Il y a toujours quelque chose à faire de toute manière.
Il y a toujours quelque chose à faire, c'est important de le dire.
On a toujours... en permanence, là, on va avoir des collectes qui vont reprendre, puisqu'avec le Covid, on n'avait plus de collectes, mais là, ça va reprendre, on en a déjà deux. Qui vont repartir. On est en train de mettre en place un CRAI sur deux jours. On a plein de choses comme ça, des portes ouvertes. Là, on a eu l'inauguration avec
M. Ferrari, le président de la...
Et maintenant, il va falloir aussi faire venir les adhérents qui veulent venir voir. Il y en a qui ne viennent pas forcément tout le temps. Donc on va se débrouiller pour faire une journée porte ouverte où ils pourront venir voir le refuge New Look. Et puis on va faire aussi avec nos partenaires, parce qu'on a aussi des partenaires qui nous aident, des grands magasins, des ostéopathes, tous ces partenaires-là. On va faire aussi une après-midi où on va leur permettre de venir visiter le refuge et voir comment on s'est modernisé, moderne, on a quand même amené des choses grâce à la métropole, mais voilà, il fallait, c'est des bâtiments, celui-ci daté de 71 et l'autre des années 80, donc il fallait le remettre en...
quelques décennies, forcément. Bah, oui. Donc du coup, appel à bénévoles, toujours, tout le temps, vous en avez toujours besoin. Il y a aussi les familles d'accueil, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe, parce que c'est quelque chose
alors,
que...
Les familles d'accueil, c'est surtout pour les chats.
Surtout pour les chatons, d'accord.
On va dire chatons, en l'occurrence, les chats de temps en temps, mais surtout les chatons, parce que les chatons, quand ils arrivent à moins de 2 mois et demi, bon, on ne peut pas les mettre ici. Et on ne peut pas les faire adopter non plus. Il faut finir le sevrage.
Bien sûr.
Alors, il y a deux solutions. Soit le chaton va arriver avec sa maman.
Oui.
Donc là, très bien. Il va aller en famille d'accueil avec sa maman et il va grandir petit à petit. Soit il va arriver tout seul. Il va falloir le biberonner.
Bien sûr.
Alors, il faut savoir que généralement, une chatte, c'est 7 petits. Hein. Donc, à un quart d'heure de biberonnage chaque petit...
Il faut avoir un peu de temps devant soi.
Voilà. Toutes les 3 heures et 2 jours comme 2 nuits. Donc voilà, les familles d'accueil sont... Mais bon, là, on arrive à en trouver. Hein. Il n'y a pas de...
Ouais.
C'est un peu compliqué. Il faut bien qu'ils comprennent ce qu'on
a
voilà,
à faire. C'est une sacrée responsabilité. Voilà.
Après, les familles d'accueil chiens, c'est plus difficile parce que c'est le retour du chien.
Ouais.
Parce qu'il y a des... on a eu une famille d'accueil, et il a fallu aller rechercher le chien avec la gendarmerie. C'est un peu difficile, Donc, au niveau des chiens, les familles d'accueil, on se calme. Mais il y aura des possibilités, parce qu'il y a... généralement, quand on a des familles d'accueil, c'est pour des chiens qui sont blessés.
D'accord.
Pour éviter que la convalescence se fasse ici.
Bien sûr.
Bon, depuis un certain temps, ça va. Les blessures, on n'en a pas trop. On en a plus sur les chats que sur les chiens. Et les familles d'accueil nous aident au niveau des chats, par exemple, pour qu'ils aient la convalescence tranquille. Les chats, ça tombe d'un étage, ça tombe, voilà, c'est le balcon, c'est...
Ouais.
Après, il faut les faire soigner, et puis il faut qu'ils aient une convalescence tranquille, sans courir, sans qu'il y ait un autre chat qui les embête. Voilà. Et puis des séances chez le véto quasiment tous les jours. Donc ça, c'est bien quand on a une famille d'accueil qui peut prendre le chat.
Qui peut prendre, ça demande quand même de sacrées responsabilités, il faut en être conscient avant de potentiellement se proposer comme famille d'accueil.
Donc la famille d'accueil prend en charge uniquement le chat, nous on prend en charge tout ce qu'il y a à côté. Donc repas, machin, tout ça, la litière, tout ça, c'est nous qui prenons, les équipements, on les équipe avec les choses comme ça, et puis voilà. Mais bon, très souvent, la famille d'accueil met son petit... paye la bouffe ou paye la litière ou paye
il y a un petit côté militant quand même à se présenter comme famille d'accueil. C'est pas anodin quoi.
C'est une forme d'engagement aussi.
Quand je vous dis tout à l'heure qu'on avait à peu près 200 chatons en 3 mois, sur 200 chatons on en a bien 80 qui soient en dessous de 2 mois et demi. Hein.
Ouais.
Donc
vraiment très très jeune du coup, très
jeune. Oui, il faut savoir que une chatte elle en fait 7 hein, minimum. Donc,
faut assurer derrière. C'est la morale de cette histoire. Ouais. Bon, en tout cas, que ce soit pour se proposer comme bénévole, comme famille d'accueil, pour faire des dons aussi, ou consulter. Il y a même une petite boutique, je crois, à la Pagie, si je dis pas de bêtises, à l'accueil de la Pagie.
Il y a plein d'accessoires pour vos.
Il existe toujours le calendrier, je pose la question. Vous faites toujours le calendrier annuel
Et il est très beau en plus.
Ouais.
Il est toujours très beau.
On a la chance d'avoir un très bon photographe. Ouais.
Je vous le confirme. Très très bon photographe. Du coup, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site internet, notamment de l'Apagie. Apagie.fr, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Les community managers, où est-ce qu'on vous retrouve, l'Apagie
Vous pouvez retrouver le refuge sur Facebook, donc à Refuge Apagie, et puis sur Instagram à Refuge Apagie 38.
Tout attaché.
Et le Polydra aussi à sa page Facebook.
Ah, d'accord. Okay.
Voilà. C'est Apagie Polydra et sa page aussi Instagram.
Très bien. Hydra, IDRA.
Voilà. Exactement.
En tout cas, on l'a pas dit, on a dit que ça se trouvait au Versoux, mais c'est 659 route de l'Isère, au Versoux, si vous voulez vous renseigner et venir leur rendre une petite visite. Il y a un mail aussi, c'est contact@apagie.fr, si vous voulez, vous préférez la voie par mail. En tout cas, Laura, Anna, Philippe, merci infiniment de nous avoir reçus. Je pense qu'on a bien fait le tour. C'était passionnant. En tout cas.
Ouais.
On reviendra, on en refera deux ou trois autres. Comme ça, on pourrait dire absolument tout ce que vous voulez. On vous remercie de nous avoir accueillis, en tout cas.
On a un studio.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais j'aurais deux, trois suggestions.
Studio, ouais.
Merci infiniment, amis auditeurs, amis auditrices. On espère que cette interview vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur la page J, que ce soit en ligne ou en venant les rencontrer directement. On vous souhaite une très très bonne journée sur Radio RKS à l'écoute du 97 FM ou sur radio-rks.fr. À très bientôt.
RKS 100% Grenoble.